Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes bien chers frères, mes bien chers amis, c'est aujourd'hui le dimanche du Bon Pasteur, le deuxième dimanche après Pâques. Et l'Église nous demande, tant dans l'Épître, tiré de l'Épître de Saint-Pierre, premier Épître de Saint-Pierre, chapitre 2, versets 21-25, et également dans l'Évangile selon Saint-Jean, chapitre 10, versets 11-16, dans ces deux textes, l'Église nous rappelle l'existence et l'infaillibilité de l'Église catholique, hors de laquelle personne ne peut être sauvé. Non seulement personne ne peut être sauvé en dehors de l'Église catholique, mais en plus de ça, il ne peut y avoir de salut, de valeur de salut, dans une fausse religion. Notre Seigneur le dit expressément. Il n'y aura qu'un seul troupeau et qu'un seul pasteur. Vous étiez autrefois comme des brebis errantes, mais maintenant vous êtes revenus au pasteur et à l'évêque de vos âmes. Il n'y a qu'un seul évêque de nos âmes, qu'un seul pasteur véritable, notre Seigneur Jésus-Christ. Il est bon de revenir rapidement ou l'enseignement de l'Église sur ce sujet, notamment dans le catéchisme. Je n'ai pas le temps de reprendre tout cet enseignement, cela rallongerait trop le sermon. Mais il faut nous rappeler ce que dit l'Église, ce que dit le catéchisme. L'Église, c'est la congrégation de toutes les personnes qui remplissent quatre conditions. Première condition, être baptisé. Deuxième condition, avoir la foi et la pratique de la foi. Pas simplement la foi, il faut la pratique de la foi, vivre dans la charité, sinon on tombe dans le protestantisme. Troisième condition, utiliser les sacrements, au moins ceux qui sont pour nous, en fonction du devoir d'état de chacun. Et quatrièmement, de reconnaître le pape comme vicaire de notre Seigneur Jésus-Christ, successeur donc de Saint-Pierre, représentant de notre Seigneur Jésus-Christ, dont le rôle est de garder le dépôt de la foi. Le catéchisme rappelle également que l'Église véritable de notre Seigneur Jésus-Christ peut être reconnue par quatre notes d'unité, unité de foi, unité de culte, unité dans les sacrements, par la sainteté de son fondateur, notre Seigneur Jésus-Christ, sainteté également qui existe dans l'Église catholique, par tous les saints canonisés par l'Église. L'Église est également catholique, c'est-à-dire universelle, pour tous les gens, toutes les personnes, toutes les situations, tous les temps, est également apostolique, apostolique dogmatiquement et physiquement parlant. Physiquement parlant parce que le pape est le successeur de Saint-Pierre, qu'il y a une ligne directe entre le premier pape et Saint-Pierre jusqu'au dernier pape, le pape Pie XII, et également une apostolicité dogmatique, dans le sens que l'enseignement du pape Pie XII, dernier pape régnant, doit être le même que l'enseignement l'enseignement de Saint-Pierre. Plus que jamais, mes chers frères, pour protéger notre foi, nous devons nous rappeler ces choses essentielles. Je voudrais également rappeler rapidement l'enseignement de l'Église par un des textes les plus importants du magistère de l'Église, le Syllabus, constitué par le pape Pie IX, en continuation de son encyclique Quanta Cura en 1864. Je voudrais simplement vous rappeler quelques-unes des propositions condamnées par l'Église solennellement sous sa présidence, alors qu'il était pape, vicaire de notre Seigneur Jésus-Christ. Il a condamné par exemple la proposition numéro 15. Il est libre à chaque homme d'embrasser et de professer la religion qu'il aura réputée vraie d'après la lumière de la raison. Il a condamné la proposition numéro 16. Les hommes peuvent trouver le chemin du salut éternel et obtenir ce salut éternel dans le culte de n'importe quelle religion. Il a condamné la proposition numéro 17. Tout au moins doit-on avoir bonne confiance dans le salut éternel de tous ceux qui ne vivent pas dans le sein de la véritable Église de Christ. Il a condamné la proposition numéro 18. Le protestantisme n'est pas autre chose qu'une forme diverse de la même vraie religion chrétienne, forme dans laquelle on peut être agréable à Dieu aussi bien que dans l'Église catholique. Vous voyez que son enseignement est très clair. Et cet enseignement, de proposition condamnée par l'Église catholique en 1864, n'a pas pris une ride. Il a également, dans la proposition numéro 55, condamné la proposition suivante: l'Église doit être séparée de l'État et l'État séparé de l'Église. Il a condamné également la proposition numéro 77. À notre époque, il n'est plus utile que la religion catholique soit considérée comme l'unique religion de l'État, à l'exclusion de tous les autres cultes. Il a également condamné la dernière proposition, la proposition numéro 80: le pontife romain peut et doit se réconcilier et transiger avec le progrès, le libéralisme et la civilisation moderne. Voilà l'enseignement de l'Église, voilà l'enseignement de notre Seigneur Jésus-Christ. L'Église a toujours, toujours enseigné cela et condamné ces diverses propositions que je viens de vous énumérer. Les choses ne peuvent pas changer, ne changeront pas, parce que notre Seigneur Jésus-Christ est Dieu et qu'il est Dieu pour toute l'éternité. Saint-Pierre nous donne les raisons de cet amour tout particulier que nous devons avoir pour notre Seigneur Jésus-Christ, chef de l'Église. Le Christ a souffert pour nous, vous laissant un exemple afin que vous marchiez sur ses pas, lui qui n'a pas commis le péché, dans la bouche duquel il n'y a rien de trompeur, il n'y a rien de trompeur, lui qui injuriait, ne rendait point d'injures, et maltraitait, ne faisait point de menaces, mais se livrait à celui qui le jugeait injustement. Il a porté lui-même nos péchés en son corps sur la croix, afin qu'étant vivant, mort au péché, nous vivions pour la justice, et ce sont ses plaies qui vous ont guéri. Car vous étiez comme des brebis errantes, mais maintenant vous êtes revenus au pasteur et à l'évêque de vos âmes. Et Saint Jean, en son évangile, choisi aujourd'hui, nous redit exactement la même chose. Je suis le bon pasteur donne sa vie pour ses brebis. Et Saint Jean, l'apôtre que Jésus aimait, nous rappelle qu'il y a deux ennemis de cette église. Le mercenaire et le loup. Le mercenaire est celui qui n'est point le pasteur, à qui les brebis n'appartiennent pas. Il voit venir le loup, il abandonne les brebis et s'enfuit. Et le loup ravit et disperse les brebis. Le mercenaire s'enfuit, dit-il, parce qu'il est mercenaire et qu'il ne se met point en peine des brebis. Mais lui, notre Seigneur, il n'est pas pareil. Je suis le bon pasteur. Je connais mes brebis me connaissent, comme mon père me connaît, que je connais mon père, et je donne ma vie pour mes brebis. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Celles-là aussi, il faut que je les amène et qu'elles écouteront ma voix. Il n'y aura qu'un seul troupeau, qu'un seul pasteur, une seule église, hors de laquelle il n'y a pas de salut, aucune valeur de salut dans une fausse religion. Voilà, bien chers frères, ce qu'il nous faut aujourd'hui, plus que jamais, prêcher, tout simplement pour sauver nos âmes. On ne peut pas sauver nos âmes sans l'Église catholique. On ne peut pas sauver nos âmes sans l'Église catholique, une sainte catholique et apostolique. On ne peut pas sauver nos âmes sans suivre ce que les papes ont enseigné pendant 20 siècles, depuis Saint-Pierre jusqu'à Pie XII. On ne peut pas avoir changé le catéchisme catholique, on ne peut pas changer le magistère de l'Église. Les propositions du syllabus de 1864 du pape Pie IX, encore une fois, n'ont pas pris une ride. Sont valables et seront valables jusqu'à la fin des temps. Elles ne peuvent pas changer, ces condamnations ne changeront jamais. Pourquoi? Parce qu'elles sont infaillibles. L'Église catholique reconnaît dans ses textes les marques de l'infaillibilité. Le vicaire du Christ parle comme pape, sous la foi et les mœurs, avec intention d'obliger toute l'Église, tout y est. Alors, mes bien chers frères, aujourd'hui, plus que jamais, nous devons nous protéger des ennemis de l'Église, nous protéger des mercenaires de l'Église de Vatican II. Ces personnes qui se prétendent prêtres dans l'Église de Vatican II et qui n'ont qu'une seule chose en vue, qui n'ont qu'un but, mettre l'homme au centre de tout, adorer l'homme. Idolâtrer l'homme et oublier notre Seigneur Jésus-Christ. Ces mercenaires vont travailler partout en essayant d'insuffler dans les veines mêmes de l'Église et de tous les catholiques ces faux principes condamnés par l'Église à multiples reprises. Ces principes de liberté, d'égalité, de fraternité, de liberté de conscience, de collégialité, d'écuménisme. Constamment, ils reviennent sur ces mêmes principes qui ont toujours, toujours été condamnés par l'Église et qui seront condamnés par l'Église jusqu'à la fin des temps. Quant au loup, c'est un loup habillé de blanc. Un loup à deux pattes. C'est malheureusement François, c'est lui le loup. Pour moi, le plus grand ennemi de l'Église catholique actuellement vivant sur la terre, c'est François Bergoglio. C'est lui le loup. Lui le loup qui détruit l'Église catholique. Qui fait envahir toute l'Europe par les ennemis de l'Église catholique afin que l'islam détruise totalement l'enseignement catholique. Alors, mes bien chers frères, il faut nous protéger des mercenaires. Il faut nous protéger du loup. Et peut-être que la première des choses à faire pour nous protéger des mercenaires et du loup, eh bien, il nous faut justement, eh bien, chers frères, avoir gardé l'esprit de notre Seigneur Jésus-Christ, utiliser ce que notre Seigneur Jésus-Christ nous a donné pour nous protéger. D'abord les sacrements, la confession, la sainte communion, la messe non una cum, même si nous ne l'avons qu'une ou deux fois par an. Voilà ce que nous donne notre Seigneur Jésus-Christ. Il nous donne aussi la prière. Il nous donne le catéchisme. Il nous donne justement ce qui doit être dans les veines mêmes de tous les catholiques, l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ. Pour nous protéger de cet esprit corrompu. S'il fallait définir cette fausse église, cette église de mercenaires dirigée par un loup, eh bien il faudrait dire que c'est une église entièrement, totalement centrée sur l'homme. Et la cause formelle de cette église, ce qui la forme, en quelque sorte philosophiquement parlant, c'est l'esprit démocratique. C'est l'esprit de liberté, d'égalité, de fraternité. Ces trois mots que Bergoglio a toujours à la bouche. Cette fausse église, dont la cause matérielle est l'orgueil, la curiosité, l'ignorance. Ça veut dire que cette fausse église va progresser dans les cœurs, dans les âmes, avec l'orgueil, avec la curiosité, avec l'ignorance. Comment lutter contre cet esprit démocratique? Comment lutter contre l'orgueil, la curiosité et l'ignorance? On revient toujours aux mêmes choses, mes bien chers frères. Les sacrements, la prière, l'étude. Les sacrements, surtout la Sainte Eucharistie, avec bien sûr la confession. La prière, notamment la prière du rosaire, la messe quand on peut la voir, et l'étude, surtout l'étude du catéchisme. L'étude du catéchisme du Concile de Trente, l'étude du catéchisme de Saint Pie X. Il est évident que maintenant, il y a deux églises en place. La véritable église, une sainte catholique et apostolique qui ne mourra pas, même si humainement parlant, elle se réduit comme une peau de chagrin, se réduit à des dimensions pratiquement domestiques, comme nous le disait le cardinal Pie, l'évêque de... non pas d'Orléans, mais de Chartres, pardon. Alors sachons qu'en face de cette fausse église, il faut s'attacher au pasteur unique, notre Seigneur Jésus-Christ, à Saint-Pierre et à tous ses successeurs. Voilà, mes bien chers frères, ce qu'il nous faut enseigner, ce que nous devons étudier. Connaissez votre église, aimez votre église. Et peut-on l'aimer davantage? Peut-on prouver davantage notre amour pour l'Église, justement, qu'en étudiant notre catéchisme, en connaissant l'enseignement de l'Église catholique concernant justement cette même Église? Relisez, même si vous avez peu de temps, prenez votre catéchisme de Saint-Pédis, c'est assez court dans le catéchisme de Saint-Pédis, et relisez tout le chapitre sur l'Église. Vous avez tout là-dedans. Tout y est. On voit aussi, en face de nous, un double œcuménisme. Un vrai et un faux. Le faux écuménisme, c'est l'écuménisme délirant pratiqué par François et ses mercenaires. Un écuménisme qui donne à penser qu'il y a des valeurs de salut dans toutes les religions, que toutes les religions se valent, que toutes les religions ont le même Dieu, adorent le même Dieu. Ne croyons pas, mes bien chers frères, ces prophètes de malheur. Quand on vous dit, par exemple, que il y a trois grandes religions monothéistes, il y a le christianisme, il y a la religion juive et la religion de l'islam. Ce ne sont pas des religions monothéistes, mes bien chers frères. Seule l'Église catholique est la véritable religion monothéiste. Le Dieu des musulmans, Allah, n'est pas le vrai Dieu. J'en ai pour preuve qu'Allah n'est pas un Dieu en trois personnes et que le véritable Dieu est un Dieu en trois personnes. La religion juive rejette notre Seigneur Jésus-Christ, rejette donc la deuxième personne de la Sainte Trinité et ne peut pas être la véritable Église. Quant au christianisme, il n'y a que l'Église catholique qui soit la véritable Église. Toutes les autres églises qui se prétendent chrétiennes, entre autres les milliers de sectes protestantes qui peuplent le monde, ces sectes protestantes, mes bien chers frères, sont des fausses églises. Voilà ce qu'il faut se rappeler. Alors, il y a un vrai œcuménisme et un faux œcuménisme. Le véritable œcuménisme, c'est celui qui prêche hors de l'Église catholique, pas de salut. Le vrai œcuménisme, c'est celui-là. Hors de l'Église catholique, pas de salut. Le faux œcuménisme, c'est un œcuménisme, au contraire, qui est un œcuménisme qu'on pourrait considérer comme centrifuge. C'est-à-dire qu'il pousse les gens en dehors de l'Église catholique, cherchant en dehors de l'Église catholique l'enseignement catholique. Il n'y en a pas en dehors de l'Église catholique. Personne ne peut être sauvé hors de l'Église catholique parce qu'il n'y a qu'un seul troupeau et qu'un seul pasteur. Je me permets de rappeler à votre mémoire un texte magnifique écrit par l'évêque qui m'a formé, par l'évêque qui m'a ordonné prêtre, Monseigneur Lefebvre. La grande déclaration du 21 novembre 1974. Il y a beaucoup de choses là-dedans qui nous aident à comprendre. Corps de l'Église catholique, il n'y a pas de salut. Voilà ce que disait Monseigneur. Nous adhérons de tout cœur, de toute notre âme à la Rome catholique, gardienne de la foi catholique et des traditions nécessaires au maintien de cette foi, à la Rome éternelle, maîtresse de sagesse et de vérité. Nous refusons par contre et avons toujours refusé de suivre la Rome de tendance néo-moderniste et néo-protestante qui s'est manifestée clairement dans le Concile Vatican II et après le Concile dans toutes les réformes qui en sont issues. Toutes ces réformes, en effet, ont contribué et contribuent encore à la démolition de l'Église, à la ruine du sacerdoce, à l'anéantissement du sacrifice et des sacrements, à la disparition de la vie religieuse, à un enseignement naturaliste et théilardien dans les universités, les séminaires, la catéchèse, enseignement issu du libéralisme et du protestantisme condamné maintes fois par le magistère de l'Église. Aucune autorité, même la plus élevée dans la hiérarchie, ne peut nous contraindre à abandonner ou à diminuer notre foi catholique, clairement exprimée et professée par le magistère de l'Église depuis 19 siècles. S'il arrivait, dit saint Paul, que nous-mêmes ou un ange venu du ciel vous enseigne autre chose que ce que je vous ai enseigné, qu'il soit anathème. La seule attitude de fidélité à l'Église et à la doctrine catholique pour notre salut est le refus catégorique d'accepter la réforme. Voilà, mes bien chers frères, ce que nous disait Monseigneur Lefebvre. Certes, Monseigneur Lefebvre n'avait pas tout compris, mais il a rendu courage à des milliers, des milliers, des milliers de catholiques. Et dans ce texte historique, mais qui garde toute son actualité, qui n'a pas pris une ride, au moins dans les parties que je vous ai lues, eh bien, ce texte nous aide à comprendre, mes bien chers frères, qu'il y a deux églises, une église vraie et une église fausse. Une église qui mène au ciel, une église qui mène en enfer. Une église qui adore Dieu, une église qui adore l'homme. Une église fondée sur la croix de notre Seigneur Jésus-Christ, sur la pauvreté, la chasteté et l'obéissance. Et une église fondée, au contraire, sur les principes maçonniques de liberté, d'égalité et de fraternité. Nous avons, mes bien chers frères, un choix à faire. Ou pour ou contre notre Seigneur Jésus-Christ. Il l'a dit expressément, celui qui n'est pas avec moi est contre moi. Celui qui n'est pas avec moi est disperse. Relisons la belle oraison choisie par l'Église pour ce deuxième dimanche après Pâques, le dimanche du bon pasteur. Ô Dieu qui par les abaissements de votre Fils avait relevé le monde de la déchéance où il se traînait. Comblez vos fidèles d'une joie sans fin en donnant à ceux que vous avez arrachés au péril d'une mort éternelle de jouir du bonheur de l'éternité. Prions, mes bien chers frères, Prions la mère de l'Église, Notre-Dame, la mère de notre Seigneur Jésus-Christ, la mère du prêtre, la mère du sacerdoce, la mère de la foi catholique, de nous aider à toujours nous cramponner au pied de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ, à ne jamais, jamais, jamais abandonner l'Église de notre Seigneur Jésus-Christ pour suivre les faux pasteurs, même si nous sommes tout seuls, même si les persécutions sont partout, même si nous avons l'impression d'être de plus en plus isolés, de plus en plus éloignés du monde. Même si un catholique est quelqu'un qui aujourd'hui plus que jamais est obligé de dire non à pratiquement tout. Mais bien, chers frères, c'est le prix à payer pour aller au ciel. C'est le prix à payer pour rejoindre celui qui a dit « Je suis la voie, je suis la vérité, je suis la vie. Je suis l'unique voie, l'unique vérité, l'unique vie. Et tout ce qui n'est pas en notre Seigneur Jésus-Christ est une fausse voie, une fausse vérité, une fausse vie. » Alors demandons à la très sainte Vierge Marie, mes bien chers frères, de nous aider à comprendre toutes ces choses, à les remettre dans notre esprit, à les mettre dans notre intelligence, pour ne pas nous faire rouler par les sirènes du libéralisme, les sirènes du matérialisme, les sirènes du naturalisme ambiant, et prêcher plus que jamais la foi catholique en un Dieu crucifié dans son humanité. Nous prêchons notre Seigneur Jésus-Christ, mais notre Seigneur Jésus-Christ crucifié. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.